Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dawani Wamakaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri, Halud Mouni.
Chenni Beri, Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Bonsoir et bienvenue au Grand Dialogue. Aujourd'hui, nous allons parler d'insécurité dans le centre du pays, particulièrement les conflits intercommunautaires entre Peul et Dogon qui ont fait plusieurs morts ces derniers jours. Et pour débattre de ce sujet, nos invités sur ce plateau, Amassissé, membre du mouvement pour la défense de la patrie, Moumini Guindo, membre de Djina Dogon, Diakaridia Poudjougo, spécialiste des questions des conflits armés, Boubacar Boukoum, politologue. Je suis Fatmata Togola.
Le Grand Dialogue.
Ces violences intercommunautaires ne cessent de se multiplier. Qu'est-ce qui explique cela? Nous allons commencer par vous, Monsieur Boukoum.
Merci. Vous savez, depuis de longues années, nous pensons que nos différents États n'ont pas su prendre à bras le corps le conflit communautaire, dès lors que les sédentaires et ceux qui sont dans le système nomade, ils ont une forme de croisement. Ça fait que chaque fois qu'il y a eu des conflits, l'État n'a pas su délimiter les différentes zones de pâturage, n'a pas su dire à qui profite l'espace. Donc le fait qu'il n'y a pas de régulation à ce niveau fait qu'effectivement, chaque fois les communautés ont été confrontées. Parce que dans leur activité, généralement quand vous prenez le centre du pays, vous avez, c'est une zone où il y a l'élevage de façon globale, et de l'autre côté vous avez les paysans. Quand vous prenez les Peuls et les Dogons, c'est pas un problème ethnique en réalité, c'est un problème d'activité. Les sédentaires et les nomades ont toujours ce conflit parce que il y a pas de délimitation. Avant, on avait des systèmes traditionnels qui régulaient, qui faisaient que effectivement chaque communauté savait où est-ce qu'il fallait amener les animaux, c'était bien régulé, et où est-ce qu'il fallait pas les amener, et l'agriculteur aussi savait effectivement l'espace sur lequel il devrait faire sa culture. Du coup, le fait que cette autorité traditionnelle a disparu et que l'État moderne aujourd'hui qui est venu n'a pas su délimiter et donner à chacun son rôle, ça fait que très fréquemment, nous sommes confrontés à des conflits réels, et à cela, il faut ajouter l'injustice, parce que chaque fois qu'il y a eu des conflits entre les différentes communautés, l'État n'a jamais assumé réellement son rôle, qui est de juger les affaires de façon juste, de façon équitable. La plupart du temps, ceux qui offrent plus aux magistrats, je m'excuse d'écorcher les magistrats de passage, généralement il y a des magistrats véreux qui ont toujours entretenu ce système qui a fait qu'effectivement, en fonction de la fortune qui est proposée, tu es gagnant. Donc du coup, les conflits reviennent toujours parce que chaque communauté qui pense qu'elle a été lésée par rapport à un jugement revient encore là-dessus parce qu'il sait qu'à force d'argent, il peut toujours gagner. Donc vous verrez dans cette pratique, une communauté Peul qui gagne un procès cette année peut le perdre l'année prochaine à la suite d'un changement de magistrat ou d'administrateur, de préfet ou de sous-préfet. Donc le système est tel que il faut qu'à un moment donné, l'État décide de s'assumer de façon claire.
D'accord. Alors Monsieur Poudjougo, qu'est-ce que vous pensez de cette multiplication de ces violences intercommunautaires?
Bien, je voudrais d'abord saluer nos auditeurs et je pense qu'il faut analyser la situation sous plusieurs approches. Effectivement, il y a la question foncière. On le sait, il y a de moins en moins de terres cultivables et de terres de pâturage. Ça crée une tension entre les nomades et les sédentaires. Ça, c'est évident. Mais nous assistons ces dernières années à une autre forme de violence communautaire qui est en fait instrumentalisée. Ça veut dire quoi? Le climat social aujourd'hui a changé. En dehors de ces conflits liés à la gestion de l'espace, donc aux activités, nous avons aujourd'hui des conflits qui tiennent à une stigmatisation liée à certaines pratiques qui sont là aussi. Je me garde de parler d'amalgame parce que souvent ce sont des faits avérés, justifiés qui sont là. Le Mali actuellement est dans un contexte particulier. Nous connaissons bien l'affaire Amadou Koufa qui sévit dans la région de Mopti, donc où sont principalement les Dogons et les Peuls. Et Amadou Koufa est en Peul, et donc on a des récits qui montrent que les gens d'Amadou Koufa œuvrerait avec certains peuples. Donc il y a une instrumentalisation et une stigmatisation qui amplifie ce conflit qui n'est pas seulement lié à la gestion foncière ou de l'espace. Cette dimension doit être traitée avec plus de sérieux. Mais malheureusement, l'État malien n'est pas en train de le faire. Le gouvernement ne joue pas pleinement son rôle parce qu'il a de la peine à être présent même dans cette région. Il a abandonné totalement la région aux mains des djihadistes. Donc je pense que c'est cette approche qui permet de mieux cerner la conflictualité interethnique d'aujourd'hui.
D'accord. Alors, Monsieur Cissé, Monsieur Pojogo vient de soulever une question. Qu'est-ce que vous pensez de tout cela?
Bon, ce conflit, on ne peut même pas le qualifier aujourd'hui, cette insécurité. On ne peut pas le qualifier puisque tantôt c'est entre communautés, tantôt c'est entre éleveurs et agriculteurs, tantôt c'est entre des islamistes et autres. Tout est mélangé, on ne sait pas qui et qui. Quelle est la source maintenant, quelle est la fin maintenant de ce conflit. On ne sait pas ce que ce conflit-là explique. On ne peut pas attribuer ça à une seule partie. Parce que, d'abord, il y a la rébellion qui a occasionné tout ça. Parce qu'il y a eu des conflits bien avant. Il y avait toujours des conflits, mais il n'y a jamais eu d'insécurité. Mais avec la rébellion qui s'est levée, qui a fait connaître tous ces gens-là, tous ces individus, ce que veut dire l'arme, à quoi ça sert l'arme, donc les gens en ont utilisé, en ont abusé. Donc moi je ne dis même pas c'est entre éleveurs et agriculteurs. Je ne dis pas c'est entre Peul et Dogobe, entre Peul et Bambara. C'est-à-dire tout est mélangé aujourd'hui.
D'accord.
Quand vous allez prendre même les islamistes, vous allez trouver toutes les ethnies là-dedans. Quand vous allez prendre les chasseurs, parmi les chasseurs, il y a des Peuls, des Diallo et des Sidibé. On ne sait pas qui est qui. Donc vraiment, je crois que c'est une erreur d'attribuer ça à des conflits interethniques.
D'accord.
Sinon, il y a eu les armes et les gens vont en utiliser. Ils vont en abuser. Moi, je crois que c'est ça le problème.
D'accord.
Et ça, tout ça, c'est l'État qui a failli.
Oui, M. Guindo.
Merci, madame.
Oui.
Merci tout le monde. Comme vous l'avez si bien dit, merci de m'avoir donné la parole. Également, je m'incline pieusement devant tous ceux qui sont tombés sous les balles parce qu'ils n'ont même pas demandé, ils ne méritaient pas. Effectivement, comme un prédécesseur l'a dit, nous vivons une insécurité criarde présentement au centre Mali et plus particulièrement dans les cercles de Douanza, Koro, et même pas plus tard qu'hier, on était en réunion avec le ministre de la Sécurité intérieure et le ministre de la Réconciliation. Ces conflits, comme vous l'avez bien dit, quand il y a un regroupement humain, il y a toujours conflit. Entre femmes et hommes, il y a toujours conflit. Entre père et fils, il y a toujours conflit. Et on a toujours eu la solution entre nous, au niveau communautaire. Mais depuis l'occupation des régions du Nord et une partie de la région de Mopti, donc nous avons eu une autre forme de conflit, un nouveau type de conflit. C'est encore comme ils l'ont cité, mes précédents l'ont dit, depuis Madjalem, nous sommes toujours ensemble entre Peul Dogon, entre Peul Bamana. Donc chaque Dogon a son Peul, chaque Bamana a son Peul, chaque Peul a son Dogon, qui est son Diatigui, quand il est revenu du pâturage. Et souvent, en mi-saison, ils vont même occuper les champs pour fumiger, comme on le dit, il y a la fumigation traditionnelle. C'est nos confrères Peul qui viennent, qui restent dans nos champs jusqu'à la période de l'hivernage. Donc il n'y a jamais eu de conflit. Même s'il y avait des conflits, on les résolvait socialement. Mais comme je vous l'ai dit, depuis 2012, nous vivons un conflit nouveau. Nous vivons un conflit nouveau. Et de par le truchement des choses, les gens interprètent ça d'une autre façon. Donc ce qui est en train de s'aggraver, et de prendre d'autres dimensions. Donc je crois qu'avec la bénédiction de tout un chacun, comme il l'a si bien dit, il faudra que, d'accord, nous interpellons l'État. C'est oui, je suis d'accord avec les autres, mais nous constituons l'État aussi, nous sommes là, en société. Et nous avons une part également là-dedans, pour qu'ensemble on puisse voir communautairement, parce que quand nous sommes ensemble, on sait c'est-à-dire qui est qui doit faire quoi et qui peut faire quoi. Maintenant, s'il y a des personnes étrangères, des corps étrangers qui viennent nous opposer, c'est à nous de voir ensemble, se donner la main pour essayer d'exfiltrer ou bien de mettre hors d'état de nuire cet individu qui est étranger à notre société. Sans quoi, bon, moi j'ai peut-être assisté à certaines réunions dans le cadre de la sensibilisation pour le vivre en commun. Parce qu'avant, vous savez, dans nos localités, quand un étranger vient, on sait d'où il vient, chez qui il loge, soit chez le chef de village, soit chez l'imam, on sait chez qui il loge. Même s'il logeait chez vous, vous allez dire au chef de village ou bien à l'imam, j'ai eu un étranger hier soir ou bien ce matin. Il vient de telle contrée, il doit faire tel, il a comme destination telle. Voilà la raison de sa présence ici. Mais c'est ce qui a été abandonné actuellement. Donc chacun vient comme il veut, il séjourne comme il veut, sans pour autant crier d'âme. Donc moi je crois que c'est à nous ensemble, entre communautés, de se donner la main, de donner une vision de la chose pour qu'on puisse avoir une solution idoine au problème que nous vivons.
D'accord. Oui, monsieur Boko, vous voulez réagir?
Non, je voulais juste rebondir sur ce qu'il vient de dire, qui est très pertinent.
Oui.
Du coup, il a parlé de l'information, le renseignement par rapport au chef de village et tout ça. Mais c'est là où je pense que l'État pêche beaucoup, parce que le système traditionnel, on l'a abandonné. Certes, c'est vrai. Mais quand on parle d'un État, il s'agit aussi de l'information, du renseignement. À quoi sert un État s'il n'y a pas de service de renseignement? Donc, ce flux de population doit être... L'État doit être capable de le cerner. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un grand déficit de gouvernance. Parce que la démocratie donne les leviers pour qu'on puisse manipuler la société et permettre à la société d'atténuer au maximum les conflits et les contradictions. C'est ça le principe démocratique qui consiste à dire que nous dialoguons, le pouvoir appartient presque à tout le monde. Quand il a dit que nous sommes aussi l'État, oui, mais l'architecture, c'est l'État, c'est pas nous en tant qu'individus. Nous avons du mal à nous organiser. Pourquoi? Parce que nous avons perdu les codes, nous avons perdu les repères. Et il faut que l'État, de façon centrale, décide de donner les repères, les codes, les normes. Et quand vous êtes dans un État où il n'y a pas de sanctions, où il n'y a pas de code déontologique, il n'y a pas de mérite, il y a un laisser-aller, il y a un déficit total de gouvernance, vous ne pouvez pas, dans un système pareil, parler des gens qui doivent s'auto-saisir ou s'auto-organiser pour réussir quoi que ce soit. En tout état de cause, un État est censé mettre toutes ses politiques en œuvre. Les différentes articulations entre les différentes communautés, les différentes organisations socio-professionnelles et tout ce qui va avec relèvent de l'État. Maintenant, c'est à ce niveau que l'État est totalement défaillant. Le conflit de 2012 auquel il a fait allusion tantôt, alors c'est la conséquence de quoi? Du déficit démocratique, de la mauvaise gouvernance. C'est ce qui nous a amené à ce niveau que nous avons perdu le contrôle total de notre État, de notre pays, parce que simplement les politiques ont failli. Donc aujourd'hui, il y a un re-questionnement. De 91 à aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut à un moment donné qu'on se dise qu'est-ce que nous voulons, où est-ce que nous voulons aller, où est-ce que nous voulons amener ce pays-là. Donc tant que nous ne reposons pas les vraies questions, je suis d'accord avec lui tantôt, il y a des valeurs anciennes qu'il faut peut-être remettre au goût du jour, il y a des techniques modernes aujourd'hui qu'il faut peut-être rajouter, mais il faudrait que nous sachions qu'est-ce que nous voulons exactement. Aujourd'hui, quand j'observe le pays, je ne vois pas de leadership, je ne vois pas de guidage, je ne vois pas d'orientation. Et ça, c'est l'État. Moi, en tant que citoyen, oui, c'est vrai, je voudrais que certaines choses avancent, mais c'est difficile de dire que c'est comme ça les normes. Il faut que l'État dise à partir d'un instant que, voilà, telles choses sont interdites, telles choses sont autorisées, et voilà les directions qu'il faut prendre et harmoniser les différents points de vue. Et s'il y a des concitoyens qui vont à l'encontre de ces principes édictés par l'État, qu'on puisse savoir qu'il y a des sanctions. Et ça, ça manque dans notre pays.
D'accord. Alors, monsieur... Oui, monsieur Cissé, vous voulez... Oui, allez-y.
Là où il a dit que s'il y avait un étranger, on le présentait au chef du village, à l'imam.
Oui.
Ça, il s'agit seulement des étrangers. Aujourd'hui, ce sont nos enfants, à nous-mêmes, ou bien des enfants du village voisin, ou bien des gens qui viennent précipitamment, qui font leur action et qui quittent. Ils ne logent même pas chez quelqu'un. On n'a même pas le temps de l'observer. Il y a ce cas aussi.
D'accord. Oui, monsieur Poujougou, que pensez-vous de tout cela?
Bien, merci encore de m'avoir donné la parole.
Oui.
Je vais revenir un peu sur ce que j'ai déjà dit,
oui,
en ajoutant un grand proverbe que j'aime beaucoup chez nous les Dogons. Il est dit que si vous trouvez des excréments d'éléphant sous un grenier, c'est un humain qui les a placés sous ces greniers. On sait qu'un éléphant ne peut pas entrer sous un grenier. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'il y a un climat social dangereux qui se développe. Il serait beaucoup plus dangereux de prétendre que nous ne sommes pas en face d'un conflit. Il y a un conflit. Oui, c'est vrai, les acteurs sont multiples. Mais il y a une instrumentalisation et une stigmatisation des acteurs. Pour éviter cette instrumentalisation et stigmatisation des acteurs, il faut que l'État joue son rôle. Il n'est plus un secret que le groupe de Koufa agit dans cette région. Qu'est-ce qui est fait concrètement? On voit clairement que la région est en train d'échapper au contrôle de l'État. Et si nous ne faisons pas attention, le climat va se détériorer et nous allons assister à un drame. Que fait l'État concrètement? Je pense que l'État est en train d'empirer la situation. Quand je dis l'État, c'est vrai, nous sommes tous l'État. Je parle de ceux qui portent la plus lourde responsabilité, ceux qui sont à la tête, le gouvernement. Je ne suis pas, par exemple, le ministre de l'Intérieur pour décider de certaines choses. Je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Mais une chose est sûre, un bon ministère de Sécurité, un bon service de renseignement, ne va pas laisser une région aussi importante entre les mains de petits groupes. C'est impossible.
Au point où nous en sommes maintenant, est-ce que l'État seul peut faire face à cette situation?
Il n'est pas question de dire que l'État doit faire face seul. On ne lui a jamais demandé cela. On demande à ce que l'État ne soit pas lui-même un acteur dans la crise. Malheureusement, c'est ce qui se passe. Lorsque nous avons une politique, il faut le dire, vous savez, moi je m'en moque des tabous. Nous assistons à une certaine politique d'islamisation de l'État. Et ça, le gouvernement ferme les yeux sur cette question. Même au sein du gouvernement, nous avons des gens qui sont d'accord avec cette politique. Et ces gens ne vont pas empêcher les groupes comme Koufa et autres de faire ce qu'ils sont en train de faire. Je vais vous raconter une petite chose, anecdote, permettez-moi de le faire rapidement.
Allez-y.
Quand je suis allé au Pays d'Ogon en 2016, mais imaginez, c'était très beau. Le matin, vous avez les femmes peules qui entrent avec les calebasses remplies de lait et elles ressortent en retour avec les mêmes calebasses remplies de mil ou d'autres céréales. C'est un climat social pacifique. Si vous partez à Banyagara, vous voyez, beaucoup, ils parlent même peules. Mais aujourd'hui, si ces mêmes Dogons se plaignent, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il faut faire attention et chercher à savoir qu'est-ce qui ne va pas. Le Dogon ne va pas se plaindre pour rien du tout. Il y a quelque chose et il faut trouver cette chose-là. Donc il faut que l'État arrête de soutenir indirectement cette politique d'islamisation. Si nous ne sommes pas une république laïque, il faut proclamer la république islamique, point final. Mais on nous fait croire que nous sommes dans une république laïque. Et l'État soutient une politique d'islamisation. Je vais dire une chose très grave. Dans certaines parties du pays Dogon, aujourd'hui, vous avez des Dogons. Là, ce n'est pas une question de peul ou de qui que ce soit. Ce n'est pas une question ethnique. Mais des Dogons qui refusent simplement de manger ou de boire avec d'autres Dogons parce qu'on leur a inculqué une idéologie islamiste. Selon quoi, les autres sont des mécréants, des kafres. Nous avons des hommes armés qui viennent imposer aux femmes un style vestimentaire et qui repartent sans être inquiétés. Vous n'allez pas me dire que l'État malien n'est pas au courant de tout cela. Donc il y a une complicité à la tête, au sommet de l'État, qui doit être dénoncée. Une chose est sûre, moi je suis très confiant au pays Dogon et au Dogon. Nous avons toujours été solides. quelles que soient les difficultés, nous allons les dépasser. Si l'État faillit totalement, je crois que le pays Dogon sera la barre qui va redresser le Mali.
D'accord. Alors, M. Cissé, selon vous, quels sont les enjeux?
Bon, les enjeux sont multiples. Hein. Les enjeux sont très multiples. Comme il a dit, il y a le problème islamique et tout là-dedans. Mais ce qui est certain, c'est depuis au départ que rien n'est fait. C'est depuis au départ. Et à un moment, on pouvait tout arrêter, l'État pouvait faire seul, sans les autres. Il y a eu des moments où il y avait des chroniques contre le gouvernement, contre les grandes personnalités, à la radio, dans les télés, ça n'a pas été interdit. En ce moment, il n'y avait pas de fusil. Ça n'a pas été interdit. Et maintenant qu'aujourd'hui, ces gens, ils ont leur fusil, ils ne vont pas accepter comme on veut. Donc, c'est pourri. Et quand c'est pourri, il faut chercher vraiment la solution ensemble. C'est ensemble qu'on doit chercher la solution, puisque c'est pourri. C'est ce que j'allais
vraiment
vous dire.
Oui. C'est pourri. Et vous, Monsieur Guindo?
Ils ont tous dit ce que je pensais.
D'accord.
Je vais un peu ajouter quelque chose,
oui,
comme ils l'ont si bien dit, parce que c'est un problème de suivi. Je les rejoins de ce côté. Parce que, vous savez, quand en 2012, Guinée-Dogon a fait les trois régions du Nord, à leur retour, ils ont fait un rapport pour dire voilà ce qu'ils pensent de la situation. Et surtout, dans l'une des parties occupées de Mopti, dit qu'après l'intervention française, les djihadistes sont partis en laissant les armes. Si on prend garde, les gens vont s'en approprier et il y aura un désordre total. On a tiré la sonnette d'alarme depuis 7 ans. Mais, comme ils l'ont si bien dit, rien n'a été fait. Et les gens ont ramassé les armes, ils en ont. Dans les Verdunza, partout, quand vous partez, donc les fusils étaient à vil prix. Donc les gens l'ont pris. Et ils s'en servent. Des gens qui n'ont aucune déontologie de l'armée, aucune déontologie des choses, donc ils en possèdent. Donc dans ce groupe, il y a beaucoup de choses, beaucoup de paramètres. Comme on le dit, il y a les djihadistes, comme on appelle. Il y a souvent des règlements de compte, parce qu'il y avait des conflits latents. Il y a le banditisme. Il y a des gens qui profitent de la situation pour barrer la route aux gens. Et comme on le dit, ils coupent les coupeurs de route également. Donc il y a toutes sortes de gens présentement dans ce groupement qu'on appelle insécurité. Donc moi je crois que comme ils l'ont bien dit, c'est à l'État maintenant de voir à travers ces réseaux d'information pouvoir cibler ces gens qui sont là, des groupements qui sont en train de semer la terreur, voir ce qu'on peut faire pour que les mettre hors d'état de nuire, pour que la population puisse dormir paisiblement.
D'accord. Alors, M. Bokoum, comme M. Pojogol a soulevé la question, concernant l'amalgame, que pensez-vous de cela? La stigmatisation,
mais c'est l'État même qui constitue le goulot d'étranglement de cette situation que nous vivons aujourd'hui. Vous savez, pour qu'on arrive à cet amalgame et au stigmate dont il faisait allusion, ça veut dire qu'on a laissé que les djihadistes partent à l'armement moral des individus qui étaient déjà désemparés. Parce que quand vous êtes dans un état où il n'y a pas de justice, où les gens se sentent lésés par rapport au système actuel de la mauvaise gouvernance, ils ont tendance à croire que les djihadistes qui viennent apportent de la valeur ajoutée. On a laissé cet espace. On a laissé les djihadistes prêcher le mauvais côté de l'islam avec une forme de violence inouïe. Et comme il l'a dit tantôt, avec les armes qui sont disséminées un peu partout, donc c'est devenu un cocktail vraiment explosif. Maintenant, au-delà de tout ça, au lieu de traîner sur les causes, maintenant, il faut qu'on trouve des solutions en réalité. Et c'est là où je trouve que l'État est encore dormant, défaillant, démissionnaire. Vous voyez, nous avons signé les accords de paix dans lesquels nous avons deux rubriques. Le DDR et la Commission Justice, Vérité et Réconciliation. Donc, on est en train de créer un amalgame total qui va être gravissime si on ne fait pas attention en allant au vote d'une loi qui est en
préparation aujourd'hui qu'ils ont appelée la loi d'entente nationale. Il y a un amalgame total. Si aujourd'hui on veut résoudre cette équation, ça veut dire qu'il faut désarmer. La zone du Massina, Kona, Douanza et tout ça, les gens ont des armes qui circulent comme des petits pains. Aujourd'hui, vous avez un peu d'argent, vous pouvez vous procurer une grenade. Vous pouvez vous procurer toutes sortes d'armes. Alors, qu'est-ce qui empêche à l'État de prendre les dispositions aujourd'hui pour désarmer les gens dans cette zone? Même s'il faut faire du porte-à-porte, on a vu, les États-Unis l'ont fait en Irak. On a fait une démarche de porte-à-porte, fouiller toutes les maisons, une à une. Voilà, qu'est-ce qui se passe?
Mais cela ne va-t-il pas créer une autre situation?
Un État, ça s'assume. Situation, oui, ça peut créer tout ce que vous voulez. Mais il faut que l'État soit l'État. Il faut que l'État se mette dans une dynamique. Vous savez, nous sommes en train de travailler, nous sommes dans une situation très grave. Je ne sais pas si les Maliens se rendent compte. Si on ne fait pas attention, si nous ratons ce tournant, ce pays-là risque de disparaître si nous ne faisons pas attention. Donc il faut qu'à un moment donné, l'État prenne ses responsabilités, quoi que cela puisse nous coûter. Même si on doit casser, voilà, comme on le dit généralement, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Oui, c'est vrai qu'il y aura des dommages collatéraux, mais il faut qu'on s'assume, qu'on se dise, parce que la réflexion stratégique aussi, c'est un peu ça. Qu'est-ce que nous voulons? Aujourd'hui, nous voulons désarmer? Oui, il y a des conséquences. Est-ce que nous sommes prêts à mesurer les conséquences, à les quantifier et à voir comment atténuer les conséquences auxquelles on peut s'attendre? C'est ça le rôle de l'État. Aujourd'hui, si on doit désarmer cette zone, c'est de dire quels pourront être le revers de la médaille et comment atténuer ces conséquences. Maintenant, vérité, justice et réconciliation, c'est le socle. Si on veut que les gens s'entendent, si on veut désarmer les gens, il faut que les conflits qui sont à l'origine du fait que les gens, chacun veut aujourd'hui avoir une arme, parce qu'on ne sait jamais d'où peut venir l'ennemi, ou parce que je pense qu'à un moment donné, il faut que je profite de cette situation d'insécurité pour aller régler mes comptes, il faut qu'on soit dans un État qui sait réellement distribuer la justice. Et ça, une fois que nous nous mettons dans une posture d'un État responsable qui sait distribuer une bonne justice, nous serons capables d'aller au système de désarmement. Et une fois que nous aurons désarmé, ça veut dire que l'amalgame va s'arrêter parce qu'aujourd'hui, nous ne savons pas qui est qui, ça veut dire quoi. Que les rebelles sont armés, n'importe quel bandit est armé, n'importe quel citoyen aussi qui veut se défendre est armé. Donc à un moment donné, il faut qu'on sache qui a légalement les armes et qui l'a illégalement. Ceux qui l'ont illégalement, les lois sont là pour qu'ils déposent les armes, de gré ou de force. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut un État responsable. Il faut un État qui s'assume. Il faut qu'un État qui puisse taper sur la table et dire qu'il faut que ça s'arrête. C'est de ça que nous avons besoin aujourd'hui.
D'accord, oui. Monsieur Sidi,
je disais,
d'accord, oui.
Pour aller de porte en porte, c'est une bonne chose. Mais il faut que l'État soit que ceux qui le font soient justes. Il ne faut pas, par exemple, prendre ceci, puisqu'il ressemble à des djihadistes, ou puisqu'il ressemble à une telle ethnie, les prendre et laisser les autres, puisqu'ils ne sont pas ceux-là. S'il a une arme, c'est de l'arrêter. C'est comme l'interdiction des motos. Ce n'est pas appliqué à tout le monde. L'interdiction des motos, ce n'est pas appliqué à tout le monde. Il y a des catégories qu'on laisse. Sur qu'il est en moto, ce n'est pas normal. Quand il y a une loi, c'est tout le monde. Il y a ça aussi. Donc, si on doit le faire, si on le fait d'un côté, on le fait de l'autre, il y aura des mécontentements et ça ne va pas marcher.
D'accord. Oui, M. Pojogo.
Je crois que nous avons un gouvernement ou un système politique qui est sourd et muet. C'est là le problème. Et j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt votre proposition de désarmer. Mais je me méfie, je ne suis pas américain, mais je plaide souvent et dans des conditions, dans des situations comme celles que nous avons, nous vivons actuellement, je ne peux pas me presser de dire qu'il faut désarmer. Je vais vous dire que moi, et j'assume mes propos, si j'étais aujourd'hui au pays d'Ogon, je ne vais pas désarmer. Qui va me protéger si je désarme? Parce que l'État qui est censé me protéger ne vient même pas et refuse de venir lorsque je lui fais appel. Il n'y a qu'une seule chose à faire. Nous ne sommes pas là pour démolir ou critiquer de façon injuste. Nous sommes là pour construire. Et ma présence dans cette émission, c'est aussi de donner des idées au gouvernement. Nous sommes prêts à coopérer avec le gouvernement pour amener la sécurité. Mais ce gouvernement est sourd et muet, il ne veut pas entendre.
Nous avons des jeunes sans emploi aujourd'hui au pays d'Ougon qu'on peut recruter pour sécuriser l'État. Il y a tellement de choses qu'on peut faire, mais l'État n'est pas prêt à entendre. C'est ça tout le problème. Il faut que le gouvernement ait la modestie, l'humilité d'écouter et de s'approcher de sa population. Sinon, on va voir le pire. Et je le redis encore, en tout cas, si le Mali essaie de chanceler, le pays d'Ougon restera toujours un rempart. Ça, je le dis avec confiance.
D'accord. Oui, monsieur, toujours, si vous voulez revenir sur... Oui.
Par exemple, quand on parle du DDR, qu'on avait bien fait pour désarmer tout le monde. Mais moi, je ne crois pas à ce DDR, pour deux raisons. D'abord, pour être désarmé, tu viens, tu déposes ton arme et puis on te met à côté. Mais ceux qui ne sont pas désarmés viendront vous taper là-dessus. On a vu ça à Gao. Et de deux, si on dit que les gens de venir pour désarmer, n'importe qui va aller acheter une arme pour pouvoir trouver du travail. Et l'État ne pourra pas prendre tout ceci. Entre tous ces gens-là dans le DDR. Et si cela se fait, ceux qui sont au DDR, les hautes autorités, vont prendre leurs parents et leurs enfants. Et les autres seront toujours des gens qui, mécontents encore. Donc.
Oui, monsieur Bokomale.
Ce que je voulais juste le dire, on revient toujours au problème de la gouvernance. Ce n'est pas le DDR qui est remis en cause. Le phénomène auquel vous faites allusion, j'en ai conscience. Et M. Poudjougou aussi, quand il dit que le problème, ce n'est pas de désarmer et qu'il ne désarmerait pas parce que l'État n'est pas là. C'est de tout ça qu'il s'agit. Nous parlons de l'existence d'un État. Il faut que l'État s'assume dans toute sa plénitude. Donc, du coup, il y a de l'accompagnement, il y a des mesures énergiques qu'il faut prendre à un certain moment donné pour nous sortir de cet engrenage. Maintenant, le processus du DDR, pourquoi il est confronté à ce... Parce que quand vous parlez du DDR, on a DDR et puis réinsertion. Et la réinsertion pose problème parce que les gens qui sont chargés de gérer cette réinsertion sont, excusez-moi l'expression, malhonnêtes. Et les gens qui sont au sud ici en profitent. Donc il y a un problème. Nous sommes en train de cautionner un mécanisme. C'est pourquoi j'ai parlé de justice et d'une bonne redistribution de la justice. Pour savoir qui est militaire ou qui ne l'est pas, c'est très facile. Ce désordre, il est entretenu de façon volontaire. L'État est irresponsable. C'est ça la réalité des choses. Sinon, aujourd'hui, pour cantonner, c'est facile. On peut cantonner. Faire l'historique. Faire des investigations. Parce qu'un État sérieux aussi, c'est ça. Il ne s'agit pas de dire qu'un tel est coupable de telle chose ou un tel est arrêté et qu'on dit qu'il est... Voilà, il y a toujours la présomption d'innocence en termes de justice. Donc aujourd'hui, c'est de dire, oui, on a cantonné. Mais est-ce que nous ne pouvons pas vérifier? Est-ce que ce cantonnement a été bien fait? Est-ce que ça a été fait dans les règles de l'art? Est-ce que tous ceux qui ont été cantonnés réellement, c'est vraiment des soldats? Comment ça s'est passé? Le processus, on peut le remonter, on peut le vérifier. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, nous qui sommes au sud, qui n'avons pas pris les armes contre notre pays, nos enfants n'ont pas d'emploi et pourtant ils sont sortis des écoles, ils ont des diplômes. Maintenant, on va dire, oui, quelqu'un qui a pris une arme, oui, on va le réinsérer, même s'il n'a pas de diplôme, il devient douanier, il devient policier, on l'intègre dans un système parce qu'on a accepté un système de quotas et tout ce qui va avec. Donc, quelque part, le problème, il est mal posé. Donc, si on veut aller à une forme d'équité, de justice, il faut que le Nord et le Sud soient au même niveau. Il faut que les combattants, que effectivement leur réinsertion soit proportionnelle à leur degré de culture, ou qu'on trouve des mécanismes dans lesquels d'autres ne se voient pas rejetés par ce même pays. Donc c'est incompréhensible que des gens qui n'ont pas voulu prendre des armes contre le pays soient au chômage, et des jeunes qui ont décidé de prendre des armes contre le pays et de l'emploi. Donc voilà, il y a des mécanismes, il y a des choses qu'il faut réfléchir, il y a une forme de redistribution. Le problème pour moi, c'est juste que le gouvernement il s'assume pas. Ça, c'est des questions qu'on peut facilement résoudre. Ça ne pose aucun problème pour un État de trouver des mécanismes dans lesquels on peut redistribuer une bonne justice. Oui. Mais juste que la première des choses qu'il faut poser, parce que c'est dangereux d'avoir des armes qui circulent, et on ne sait pas par où ça vient et où ils vont. Donc, le premier élément, d'abord, c'est de dire qu'il faut freiner la circulation des armes. Ça, c'est cantonner, désarmer. Maintenant, le processus de réinsertion est un mécanisme qui vient après. Donc, il s'agit maintenant de vérifier. Est-ce que les gens qui ont déposé les armes, c'est réellement des combattants ou pas? Maintenant, on sait comment les choses se passent. C'est la corruption, c'est le népotisme. Tout ça, c'est ramené à la dimension encore de la gouvernance. Pourquoi aujourd'hui on peut accepter impunément que des gens volent notre pays? Ils ne sont pas jugés. Le rapport du vérificateur est posé chaque fois sur la table. On sait ce qui se passe. Il n'y a rien. Des gens volent au vu au-dessus de tout le monde. Il n'y a rien. Des gens tuent. Il n'y a rien. Mais il faut que l'État s'assume. C'est ça la triste réalité.
D'accord, M. Bokoum. Alors, M. Guindo, comme M. Bokoum l'a dit, est-ce que vous pensez que toute cette situation va peser sur les jeunes du Sud?
Bon. Chaque milieu a ses réalités. Parce que il y a eu un contexte qui a fait que les gens ont pris des armes, comme il l'a si bien dit. Donc, ceux qui ont pris les armes, donc les DDR, la démobilisation, la réinsertion, c'est une opération également qui doit se faire suivant des phases. Et donc, désarmer, d'accord, démobiliser. Maintenant, la réinsertion aussi, c'est une autre phase, comme il a si bien dit, qui doit être faite avec discernement pour qu'il n'y ait pas de frustration. Moi, je crois que si on va par là, donc les choses peuvent aller et les gens vont sortir grandis. Et le gouvernement aussi sortira grandi.
D'accord.
Bon, maintenant, comme il doit avancer comme chose, actuellement, je crois que le gouvernement est en train de voir comment il faudrait aller vers... Parce qu'ils sont en train de changer de politique. Donc, aller vers les assaillants, ou bien au lieu d'être attaqué pour se défendre, il faut aller chercher les gens là où ils sont. Donc, je crois que c'est cette politique qu'ils sont en train de mener. Donc, avec la contribution de la population, on va essayer de voir ce que ça va donner. Et observer quand même un temps. Bon, d'ici quelques moments, s'il y a une avancée notable, c'est notre souhait le plus ardent. Donc la chose, le désarmement dont ils ont fait allusion également, je crois qu'il a été cas hier lorsque on a eu une réunion avec les deux ministres pour qu'il y ait l'accalmie au niveau central, au niveau de Koro et de Bankas. Donc ils ont dit qu'il faut désarmer toutes les parties, que ça soit du côté sédentaire ou bien du côté éleveur ou bien du côté chose. Donc il faudrait, c'est-à-dire désarmer toutes les parties pour que chacun, c'est-à-dire quoi, soit au même pied d'égalité. Donc en ce moment, je crois qu'il y aurait moins de suspicions et donc les choses vont rentrer dans l'ordre. Donc après, maintenant, il faudrait mettre peut-être des structures, des normalisations, des structures qui amèneront les gens à dialoguer entre eux pour que, comme on a dit, le vivre ensemble soit pérenne.
D'accord. Voilà. Alors, M. Cissé, M. Guindo vient de nous avancer des phases de la résolution de ce problème-là. Est-ce que vous pensez concrètement que ça va aboutir à quelque chose de concret?
Oui, je crois que ça va aboutir, si on s'y met sérieusement. C'est tout ça, c'est le sérieux. Tout dépend du sérieux de l'État et des autres. Il faut du sérieux. Si on fait du sérieux, tout peut aboutir.
D'accord. Alors, M. Poujougo, selon vous, que faut-il faire pour résoudre ce problème?
Je crois qu'il faut un changement au niveau de la gestion de l'État. Donc, c'est un problème de gouvernance et ça, je l'ai dit à plusieurs reprises au studio ici. Nous avons un sérieux problème de gouvernance. Seule la bonne gouvernance peut résoudre ce problème.
D'accord.
Voilà.
Et vous, M. Bokoum, en termes de solutions, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire?
En fait, je pense que, comme M. Poujougou l'a dit, la clé d'abord, c'est la bonne gouvernance. L'aîné l'a dit ici, il faut qu'on soit sérieux. Parce que le sérieux engendre un problème d'éthique dans la gouvernance. Et quand l'éthique est intégrée dans le politique, effectivement, vous trouverez les clés. Parce que les solutions, elles sont humaines. Hein. Ce n'est pas compliqué du tout d'avoir une solution aujourd'hui au problème du Nord. De façon globale, hein, je vous dis, schématiquement, le Mali juste a manqué de dirigeants clairvoyants. C'est ce qui nous a manqué. Sinon, les communautés entre elles, comme le doyen l'a dit tantôt, nous avons toujours connu des conflits. Toutes les sociétés connaissent des conflits. Mais pas des conflits qu'on ne peut pas surmonter. Et il y avait des mécanismes déjà de façon traditionnelle pour gérer tout ce conflit. Donc, il n'y a pas de conflit majeur. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la mauvaise gouvernance qui a exacerbé la mauvaise distribution de la justice et l'enrichissement illicite. Parce que pour payer des armes, il faut avoir les moyens de les acheter. Et c'est cette fortune qui s'est construite souvent autour du trafic de drogue, autour du trafic d'armes. Et le nord de notre pays a été longtemps ouvert à ces réseaux de trafiquants. Donc, du coup, on a connu l'enrichissement, le stockage des armes et le stockage de toutes sortes de choses illicites dans le nord de notre pays. Donc, voilà un peu, en gros, qu'est-ce qui engrange toute cette problématique. Maintenant, quand vous avez un État qui se dit irresponsable, pendant très longtemps, nous avons dit que l'IAG, il faut le traquer. Parce que qu'est-ce qui se passe dans notre armée? On a des positions statiques. Je vous donne l'exemple. Par exemple, vous prenez notre plus grande garnison, qui est la garnison de Kati. La garnison de Kati, quand vous la bombardez aujourd'hui, je touche du bois, vous tuez qui? C'est des civils. Donc, on n'a pas de structure adaptée pour aller à une guerre. Les checkpoints auxquels on fait allusion ne sont pas des instruments pour arrêter des djihadistes armés avec des armes sophistiquées. Donc, quelque part, si vous ne faites pas attention, c'est des jeux que vous envoyez à la mort. Parce que c'est des positions avancées qui doivent plutôt donner l'information par rapport à un mouvement. Mais il ne peut pas stopper des gens qui attaquent une position. C'est impossible. Et le pays est tellement vaste que les stratégies n'ont jamais été adaptées. Donc, il faut que l'État, à un moment donné, comprennent que non seulement il faut être agressif, hein, deux, il faut communiquer avec la population, parce que l'État prend plein de décisions. Aujourd'hui, le citoyen ne se sent pas concerné. Parce qu'un leader aussi, c'est ça. Quand vous voulez adopter une politique, il faut que cette politique soit partagée par votre population. Donc, à ce niveau, le gouvernement du Mali aujourd'hui manque d'une cellule efficace de communication. On a l'information, mais il n'y a pas une bonne technique de communication. Donc, du coup, le citoyen a souvent l'impression que les décisions parachutent. Il n'a pas souvent compris, il n'est pas souvent d'accord. Donc, dans l'application, vous avez toujours un blocage. Donc, il y a ce niveau qui pose problème aujourd'hui à l'État malien. Alors, si vous voulez aller dans le fond de la question du Nord, ça veut dire quoi? Il faut qu'à un moment donné, qu'on arrête d'avoir des faux fuyants. Comme il l'a dit, c'est des stigmates. On parle de Sonray, on parle de Peul, on parle de Tamashek. C'est faux! Les Peuls, les Tamashèques, les Sonray, on est tous de la même grande famille. On se marie entre eux, on a des frères. Il n'y a pas de problème ethnique en tant que tel. Maintenant, les politiques ont suffisamment utilisé le cloisonnement à travers des intérêts politiques, à travers des intérêts matériels pour nous mettre dos à dos. Maintenant, il faut que, à l'aune de 2018, que les politiques se ressaisissent, qu'ils apprennent à dire la vérité au peuple malien. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on change la gouvernance. D'accord. Ce qu'on est capable de faire, il faut qu'on le dise et qu'on arrête de mentir au peuple malien.
Ok. Merci, monsieur, beaucoup. Monsieur Guindo, un mot de la fin avant de boucler ce débat, oui.
Ok. Le mot de la fin, c'est, comme vous l'avez si bien dit, c'est pour avoir une solution idoine au problème de conflit que nous vivons. Donc, en rassurant la population d'abord, peut-être en ramenant l'administration auprès de la population pour les rassurer, parce que c'est très, très, très important. Parce que, je vous dis quelque chose, en 2015, juin 2016, quand j'ai été en mission à Koro, au Burkina, à notre retour, on a fait une réunion des restitutions avec le ministre Zabi, avec le ministre Guindo, qui avait été faire régler un conflit à Bankas. Donc, à notre arrivée, quand on a, dans la salle, il y avait tous les sous-préfets là-bas. Et aucun sous-préfet ne dormait dans sa localité. Donc, ce qui veut dire que la population est désemparée, elle est laissée à elle-même. Donc, il faut rassurer, il faut ramener l'administration, c'est-à-dire auprès de la population, pour les rassurer d'abord. Après, comme il l'a dit, il faut un système de communication pour que les gens puissent donner les informations, les traiter, pour pouvoir traquer les soi-disant bandits. Parce que dans la plupart des cas, on dit djihadisme, mais dans la plupart des cas, c'est des bandits.
la réalité. Donc moi, je crois qu'en prenant certaines dispositions, en amont et en aval, donc on peut avoir une solution.
Ok, merci beaucoup. Et cela me fait à ce débat sur les conflits intercommunautaires au centre du pays. Merci à nos invités, Monsieur Amasissé, membre du Mouvement pour la Défense de la Patrie, Moumini Guindo, membre du Gina Dogon, Jakari Poudjougo, spécialiste des questions des conflits armés, et Boubacar Boukoum, politologue. C'était une présentation de Fatmata Togola, la mise en onde de Gagny Conté, la régie 2 est assurée par Petit Ndiara. C'est une réalisation de Ibrahima Diallo, une coordination de Mohamedou Touré.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Nibiri, Halou Dmoni.
Chienne Nibiri, Sigi Kafoba.